أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Bien, on m'a remis une ou deux questions sur lesquelles je reviendrai dans le courant de l'exposé. La deuxième partie de l'exposé concerne justement le débat qui a cours aujourd'hui en France et dans lequel on vous a un peu embarqué. Alors, dans un premier temps, il s'agissait effectivement de l'ensemble de la réflexion autour de l'organisation du culte musulman et dont Fouad dira un mot tout à l'heure, encore sur la représentation, le Conseil français du culte musulman. Puis finalement, tout à coup, on ne sait pas pourquoi, est apparue sur la scène toute la discussion sur le foulard, sur la loi de 1905, sur l'intégration, avec une avalanche d'émissions de télévision, des articles qui tombaient de partout, avec le point d'orgue qui était la visite du ministre de l'Intérieur Sarkozy au Bourget, et avec la focalisation des médias sur le moment clé, à savoir celui où l'audience a manifesté son mécontentement concernant son intervention sur le foulard, sur les photos d'identité. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une ambiance de débat un peu passionné. On retrouve des accents et des propos de ce qui a été dit ou de ce qui avait été dit en 89 et en 90 ici en France. Et avec l'invitation d'un certain nombre de musulmans à se positionner. Je dirais en introduction trois choses. La première des choses, c'est que on peut être pour ou contre la façon dont le Conseil français du culte musulman s'est organisé, la façon dont les choses ont été mises sur pied, la façon dont on a des opinions qui peuvent être divergentes, on n'est pas toujours d'accord les uns avec les autres. Vous avez ceux qui sont pour une position qui est assez tranchée. Le choix a été fait contre le respect du cadre laïque, contre la loi de 1905 de séparation, avec une intervention de Sarkozy et donc pas de collaboration. Vous en avez d'autres qui ont dit et qui sont entrés dans la collaboration et qui sont allés jusqu'à ce processus-là. Donc vous avez des positions qui sont assez tranchées d'un côté comme de l'autre. Pour les uns, il fallait travailler, pour les autres, il ne faut pas travailler. Pour ce qui me concerne, je crois qu'il faut qu'il y ait débat, que le débat ait lieu. Je pense que ceux qui disent que il faut que les musulmans s'organisent d'eux-mêmes ont raison. Je pense qu'en même temps, il faut prendre acte de ce que l'État a fait et passer de ce qui a été fait à l'exigence de ce qui doit être, à savoir un organe absolument autonome, élu de façon totalement transparente, avec un choix d'une personne qui représente les musulmans, choisie par les musulmanes et les musulmans. C'est la seule façon de faire en sorte que le culte musulman soit respecté comme il se doit dans ce pays. On ne peut pas, pendant des années, alors on peut l'imaginer de façon transitoire pour passer un temps et amener à quelque chose, d'avoir pré-choisi, enfin certains disent non, je pense qu'on peut, à partir du moment et seulement à partir du moment où, à un certain moment de l'histoire, c'est-à-dire dans 2 ans, dans ce qui nous est annoncé, les choses soient totalement transparentes. On verra, on jugera sur pièce. 2 ans dans l'histoire, c'est rien du tout. Mais 2 ans pour révéler des intentions, c'est assez instructif aussi. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, il faut regarder la réalité en face et ne pas rêver l'avenir, mais essayer de le construire en exigeant de soi, en tant que musulman, mais en exigeant de l'État, en tant que citoyen, qu'il y ait le respect du cadre constitutionnel Et ce cadre constitutionnel sera autant fonction de votre engagement à vous, aussi dans le respect d'une représentation qui soit claire, qui soit vraiment autonome financièrement, politiquement, et financièrement, religieusement, je veux dire, intellectuellement et financièrement. Bref, on est dans ce débat-là, et ce débat-là a drainé derrière lui, comme par hasard, un certain nombre de considérations qui sont d'obliger les gens qui étaient à l'intérieur du Conseil de se positionner. Et on a utilisé une chose très simple, c'est que la meilleure façon de montrer qui était ouvert ou pas aux yeux du public français, c'était la question du foulard. Donc on a poussé les gens à se positionner. C'est habile, et on sait aujourd'hui comment fonctionne le gouvernement Raffarin et comment fonctionne le gouvernement Sarkozy. Et vous allez le voir souvent, parce que ça ne s'est fait pas uniquement dans le champ de l'islam, mais ça se fait beaucoup plus largement. En fait, on demande à un certain nombre de journalistes, on demande à un certain nombre d'acteurs de lancer un débat sur la scène publique et on voit comment les gens réagissent. Et en fonction de ça, on détermine aussi une certaine politique. C'est-à-dire que, par exemple, revisiter la loi de 1905, des journalistes nous ont dit, on nous a dit qu'il fallait en parler et puis on va voir le pouls de la population. Donc c'est une façon de fonctionner aussi, c'est-à-dire que c'est aussi de bonne guerre, c'est-à-dire qu'un gouvernement lance un débat et voit comment les gens réagissent et se positionne par rapport à ça. Le maître d'œuvre en la matière, c'est le ministre de l'Intérieur, qui est, on ne peut pas ne pas le reconnaître, une force et une intelligence politique majeure dans ce pays, dans le paysage actuel. Il est compétent, il a une vision, contrairement à d'autres. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est que dans le gouvernement qui l'a précédé, ce qui a été sur le dossier de l'islam assez pathétique sur un certain nombre de domaines, c'est qu'on avait l'affaire, on avait l'impression qu'il y avait des opinions contradictoires, en tout cas pas de vision. Là, il y a une ligne. Et cette ligne, elle impose à des citoyens, vous, d'avoir aussi des principes. C'est-à-dire, de deux choses l'une, soit vous rentrez dans le jeu politicien sans principe, et là je peux vous dire, je vous l'annonce maintenant, vous allez être mangé, parce que vous êtes en face de gens qui ont un certain nombre de longueurs et d'années d'expérience, soit vous avez des principes, et à partir de ces principes, vous positionnez une attitude politique. C'est-à-dire, vous ne faites pas du politicien, vous avez des principes et vous vous faites respecter pour vos principes. Ce qui, malheureusement, chez certains, est absolument sidérant, c'est le peu d'intelligence politique ou du coup de contexte. D'intelligence du contexte politique dans lequel nous sommes. Je prends un exemple. Monsieur Sarkozy va au Bourget. Qu'est-ce qu'il ne peut pas ne pas dire au Bourget pour quelqu'un qui a, je ne sais pas, 0,5% de compréhension politique de l'univers? Qu'est-ce qu'il ne peut pas ne pas dire? Il est impossible qu'il aille au Bourget et qu'il ne parle pas du foulard. Alors que certains ont dit, mais pourquoi il en a parlé? Il ne peut pas ne pas aller là-bas et dire quelque chose. C'est normal pour deux raisons. D'une part, pour se positionner, et d'autre part, pour faire entendre à ceux qui le critiquent d'avoir négocié avec l'UOIF, par exemple, de faire entendre que lui, il a des positions claires sur la... Il ne peut pas ne pas en parler. Ça, c'est pour quelqu'un qui comprend un minimum. Et moi, je suis étonné de voir des gens qui disent, même parmi les hauts responsables, qui disent, mais pourquoi a-t-il gâché la fête? C'est parce que ce que vous attendiez était forcément totalement opposé à ce qu'il devait faire. Il devait parler de ça. Et d'ailleurs, c'était tellement préparé que le texte de son intervention était déjà sur Internet avant qu'il en parle. C'est pas un coup... C'est pas, ça lui est pas passé par la tête comme ça. Il a vu des foulards, il a dit, ben, je vais dire un mot. Donc, c'est préparé. Donc, et c'est normal. Moi, franchement, de loin, il ne pouvait pas faire autre chose. Je veux dire, vraiment, quelqu'un qui connaît, je veux dire, qui comprend la politique un peu. Et deuxième chose, qu'est-ce que ne pouvait pas ne pas faire le public qui était là? Réagir. Bon, à qui ça profite tout ça? À qui profite le fait que tous les médias n'ont parlé que ces deux minutes de confrontation? À ceux qui ont envie, aujourd'hui, alors, les médias ne parlent pas de ça, n'ont parlé que de ces deux, pas des 40 minutes où on lui a fait des ovations, où les gens se sont levés, ça on s'en fiche. Plus important, c'était ce moment-là précis, pourquoi? Pour entretenir une certaine état de passion dans le débat, pour dire, il y a conflit, il y a problème. Alors, de deux choses l'une, soit vous allez les deux pieds joints dans cette polémique et vous recommencez le vieux refrain qu'on a déjà connu, soit maintenant vous êtes devenus des citoyens de ce pays et vous refusez qu'on décide pour vous de ce dont on doit parler. Parce que le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème aujourd'hui, et je vais même vous dire une chose, c'est que la réalité, l'intégration dans ce pays, au niveau de la loi de 1905, ça marche. Ça marche tellement que ça pose pratiquement plus de problèmes aux musulmans dans la compréhension. Dans la compréhension de la loi de 1905. Maintenant, on l'a étudiée, cette loi. Maintenant, on sait ce que c'est. Il n'y a pas de problème dans la loi. Il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes dans la lecture de la loi. Il y a des problèmes, et ça marche tellement que maintenant, la vraie question qui vient, après nous avoir dit qu'il faut accepter la laïcité, maintenant, un certain nombre d'ouvrages mettent en évidence, attention, ils mettent en péril l'homogénéité religieuse et culturelle du pays. Ça veut dire que ça marche, en fait. Et que c'est parce que ça marche qu'on va recréer un problème, et qui est un problème qui est à côté du vrai problème de fond que nous avons. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est une réflexion de fond sur les principes qui doivent être les nôtres quand on entre dans le débat. Non pas ceux qu'on choisit pour nous emmener dans un faux débat, mais ceux avec lesquels nous devons entrer pour poser les vrais termes du débat. Parce que les vrais termes du débat, c'est absolument pas la loi, la visibilité ou comment on peut lire la loi. Alors disons rapidement trois choses. La première des choses, c'est que factuellement, depuis 15 ans, qu'est-ce qu'ont montré les musulmanes et les musulmans ? Et qui devient un problème, justement pour ceux qui aimeraient qu'un problème apparaisse. C'est que depuis 15 ans, depuis 1989, après qu'il y ait eu tous ces mouvements passionnés, ce grand débat, vous n'avez pas remarqué que finalement, à pratiquement tous les niveaux, la vraie question du fait de l'islam dans ce pays, ça a diminué, puis qu'on a pratiquement les vrais débats passionnés ont disparu. Qu'en d'autres termes, depuis 15 ans, aujourd'hui, chez la majorité des musulmanes et des musulmans de ce pays, on a admis que le cadre constitutionnel était pour nous un cadre qu'on respectait, qu'on pouvait vivre en tant que musulmanes et musulmans dans ce pays, qu'effectivement, sur la question du foulard, il y avait un certain nombre de questions qui n'étaient pas réglées, mais que le cadre légal était un cadre acquis, que les situations avaient diminué. Il n'y a pas eu de nouveau cas de foulard qui ait justifié qu'on en fasse tout un plat pendant le dernier mois. Pourquoi est-ce que ça vient ? Il y a un agenda politique. Premier élément, c'est que la réalité de cet enracinement des communautés musulmanes fonctionne. La deuxième des choses, c'est que dans les 15 dernières années, on a étudié la laïcité. On a étudié la loi de 1905. Alors, moi je suis de ceux qu'il y a à peu près 12 ans, avait entendu, j'avais étudié la loi de 1905, mais j'avais aussi écouté ceux qui nous disaient ce qu'elle était. Et ce qu'ils nous disaient qu'elle était, ce n'était pas ce que disait la loi, c'était ce qu'eux en lisaient. Et ils faisaient de la loi quelque chose qui était contre le religieux, et voire même contre les sites, ce que la loi ne dit pas. Après, on l'a étudié, on s'est aperçu qu'en fait, ils avaient une lecture idéologique de la loi. Ce n'était pas la loi. Parce que quand on a travaillé avec un certain nombre de spécialistes, des gens qui sont du plus haut niveau de compétence en la matière, qui s'appellent Jean Boussinesque ou Jean Bobereau ou Émile Poulard, qui sont des gens qui sont soit dans la tradition religieuse, soit dans la tradition laïque et qui connaissent ou la Ligue de l'enseignement, on a étudié et puis on s'est aperçu qu'en fait, la loi de 1905, elle est extrêmement claire, elle n'a même pas besoin d'être touchée, il faut simplement l'appliquer. Et qu'en fait, l'interprétation qu'en fait le Conseil d'État à la suite de l'interpellation de Jospin à l'époque, elle donne un cadre qu'il n'y a pas d'opposition formelle. Au fait, pour une jeune fille de porter le foulard au niveau de l'école, si, et à la triple condition, que, 1, elle ne perturbe pas l'ordre public, qu'elle ne fasse pas du prosélytisme et qu'elle aille à tous les coups. Bien, ça veut dire que le Conseil d'État dit que dans le cadre de la loi, il n'y a pas d'opposition. Ceux qui sont en train de revenir avec le débat là maintenant, ils sont en train de nous dire, oui, mais il faut respecter la laïcité. Mais on leur dit, mais exactement, mes chers. Le problème, c'est que vous nous parlez d'une chose que vous n'avez pas étudiée et dont vous dites qu'elle est, ce qu'en fait elle n'est pas. Le problème, c'est que quand on entend, par exemple, les chevènementistes, les souverainistes, et un certain nombre de ceux qui viennent avec l'ancienne discussion sur la laïcité, quand vous discutez avec eux, vous apercevez qu'ils disent sur la loi des choses que la loi ne dit pas. Ils font une interprétation libre. Mes chers amis, entre vous et nous, ce n'est pas votre interprétation libre contre notre interprétation libre, c'est de la loi. Et la loi, elle dit quelque chose, elle donne un cadre. Or, le cadre que vous, vous êtes en train de dessiner, n'est pas celui que dit la loi. La loi dit, loi de séparation, que l'État ne reconnaît aucun culte, qu'il n'intervient dans aucun culte, et qu'il n'y a pas d'opposition formelle au fait de pratiquer sa religion, puisqu'il y a la double liberté de conscience et la liberté de culte. Mais ce qui est étonnant, c'est que certains d'entre nous, il y a 10-12 ans, quand on n'avait pas vraiment étudié dans le fond tout ça, quand on écoutait plutôt les laïcards que les partisans de la laïcité, on se disait, peut-être qu'il faut changer quelques éléments de la loi pour la rendre applicable, puisque les musulmans n'étaient pas là. En fait, on l'a étudié, et on s'aperçoit qu'il n'y a rien à changer, il faut simplement l'appliquer. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est maintenant des laïcs qui disent qu'il faut changer la loi. Vous nous avez dit pendant 10 ans, appliquons la loi. Nous, on pensait que ça voulait dire que c'était contre nos droits. On a étudié, on s'aperçoit qu'il faut appliquer la loi, et maintenant, vous voulez changer la loi. Maintenant, certains veulent changer la loi pour la restreindre. En fait, ce qu'il faut dans ce pays, c'est que la loi de 1905 soit appliquée également, égalitairement et clairement pour tous les citoyens de ce pays. Et vous n'avez pas à rentrer dans des discussions, faites attention, on vous emmène dans des discussions inutiles. Et la loi dit ça, la loi elle ne dit rien de tout ça. La loi elle dit, respect de toute liberté de conscience et de toute liberté de culte, il n'y a pas d'opposition, appliquons la loi, point. Et pour les situations où il y a des jeunes filles qui sont dans des situations de contrainte, on va aller au cas par cas. Avec une position claire en tant que musulman, nous sommes absolument contre qu'un musulman ou une musulmane impose à une musulmane de porter le foulard. C'est contre le principe islamique, c'est quelque chose qui doit être fait librement. C'est clair. Moi, je vais vous dire une chose, parce que ça m'est arrivé de prendre position contre des parents qui vont imposer à la jeune fille de le faire contre son consentement, parce que ça n'a pas de sens. On ne porte pas un foulard sous la contrainte. Point. Mais il faut qu'on le dise. Nous, on est contre la contrainte, dans toutes les circonstances. Contre la contrainte de le porter, contre la contrainte de l'enlever. Et qu'à partir d'un certain moment, de quel droit vous décidez qu'une jeune fille de 18, de 19, de 20 ans, libre et mature, serait à rééduquer au sens de l'éducation quand elle a décidé de le faire librement. Donc, contre la contrainte. Mais il faut qu'on soit clair, qu'on dise clairement qu'on est contre cette contrainte. Et qu'on dise clairement à la société, laissez les gens libres de décider ce qu'ils veulent être, à partir du moment où c'est leur choix. Alors ce qu'il faut, c'est que vous étudiez cette laïcité, que vous sachiez l'ABC de ces choses-là. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est vraiment l'ABC. Et que vous ne vous tombiez plus dans le débat. Je veux dire, vous avez des gens qui s'approprient certaines lectures de la laïcité, qui veulent l'imposer en disant, c'est ça la laïcité. Mais c'est pas vrai. Avant de venir nous expliquer ce que c'est la laïcité, il faudrait que vous l'étudiez. La loi de 1905 ne dit pas qu'il y a opposition entre la pratique musulmane et la loi. Donc il faut la loi. Rien que la loi. Appliquons la loi. Et ça, c'est avec cette force-là qu'il faut entrer aujourd'hui. Et c'est à vous, citoyens français, de venir avec ça. C'est-à-dire, un, on veut l'application de la loi. Deux, on discute avec chacune des situations, cas par cas, parce que ce qu'on veut, c'est s'opposer à toute contrainte. Et trois, on veut qu'elle soit appliquée égalitairement pour les juifs, pour les chrétiens, pour les musulmans, pour les bouddhistes, pour toute personne de confession, de n'importe quelle confession que ce soit. Et une fois que vous avez dit ça, il ne faut pas commencer maintenant, parce que c'est aussi fixé sur la question du foulard, c'est capitaliser la passion dans ce pays. Tout le monde se passionne et on n'est plus... Il faut déplacer le terrain sur les questions de fond, sur la véritable application. Parce que le problème aujourd'hui des musulmans dans ce pays, c'est pas la loi. C'est l'image que l'on a de l'islam, c'est la représentation qu'on a de l'islam et l'application de la loi au nom de la représentation qu'on a de l'islam. En d'autres termes, on est en train de maintenir dans ce pays une espèce d'air du soupçon, de pression sur le danger que peut être l'islam ou que peuvent représenter les musulmans dans l'homogénéité, dans la construction du pays. Et au nom de ce fameux mot qu'on utilise partout, le communautarisme. Et on met une crainte comme ça. Et au nom de cette crainte, finalement, la conséquence de cette crainte, c'est une application de la loi géométrie variable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, c'est exactement ce qui est en train de se passer à un niveau beaucoup plus large aux États-Unis. Vous savez ce qu'on fait ? On propage la peur. Mais vraiment, vous êtes aux États-Unis, quand vous, il y a de la peur tout le temps. Depuis le 11 septembre, il y a de la peur. Et après, on dit aux citoyens, ben, comme vous avez peur, donc on alimente cette peur, puis après on leur dit, comme vous avez peur, ben, on va surveiller. On lance la peur et on a une politique de surveillance généralisée ensuite derrière. Et donc on surveille tout le monde. Et puis après, si vous dites, non mais arrêtez de me surveiller, on dit, mais c'est pourtant bien, c'est ta peur. On surveille. C'est une stratégie élémentaire, entretien de la crainte, stratégie de la sécurité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ici dans ce pays ? Il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'islam, ou attention, qu'est-ce que c'est. Et puis on prend des sujets qui fâchent, des sujets qui passionnent, puis à partir de ceci, alors on a une stratégie qui va être une stratégie d'application à géométrie variable. Vous êtes citoyen, vous avez fait une association musulmane, vous allez demander à une autorité locale, on veut faire une mosquée, nous indépendante financièrement, indépendante religieusement, indépendante politiquement, attention qui sont-ils. Et donc, votre droit à pouvoir disposer d'un espace pour créer une mosquée, votre droit à pouvoir pratiquer librement votre religion est remis en cause par l'entretien d'une suspicion qu'on alimente. Et quand vous allez vers les autorités, vous les dites, mais sur quoi vous vous fondez ? Ah, on ne sait pas, vous savez, on ne sait jamais. En d'autres termes, la crainte vis-à-vis de l'islam, c'est à une autre échelle, un peu ce qu'on a aussi à un autre niveau. De la crainte qu'on est en train d'entretenir, parce que depuis ici, on regarde les États-Unis avec un air de dédain. Ça, on dit, regardez comment ils fonctionnent. Mais ce qu'ils sont en train de faire sur le terrorisme aux États-Unis fait que tout le monde est un tout petit peu suspecté et surveillé. On a peur de tout le monde. Ici, dans ce pays-là, ici, là, maintenant, ici, c'est la crainte du fondamentalisme, de l'intégrisme. On ne sait pas très bien qui est qui. Et parce qu'on ne sait pas très bien qui est qui, puis finalement, au fond, on ne le saura jamais, eh ben, on retire les droits élémentaires de ceux qui ont des droits dans ce pays. Parce que finalement, le problème de la rumeur et de la suspicion, c'est qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou faux. Mais tant qu'il y a rumeur, il y a problème. Et tant qu'il y a problème, vous n'avez pas vos droits. Donc au nom de ce qu'on alimente, on entretient aujourd'hui une application de la loi à géométrie variable. Alors de deux choses l'une, soit vous avez compris la technique, et qu'à partir d'un certain moment maintenant, il va falloir connaître le droit de ce pays, et il va falloir se battre. Mais ça va se battre au sens de revendiquer l'application stricte de la loi. L'application respectueuse de nos droits. C'est ça qu'il faut aujourd'hui dans ce pays. Mais en plus, il faut les connaître. Il ne faut surtout pas tomber dans la naïveté. Il y en a certains, mais vraiment, vous dites, ils sont, tu vois, alhamdoulilah, depuis qu'il y a le conseil consultatif, ils nous invitent plus à la télévision. Mais t'as vu comment ? T'as vu dans quelles circonstances ? Bon, il y a une différence entre Abdallah et Bernard-Henri Lévy. Tu vois ? Bernard-Henri Lévy, quand il vient à la télévision, il n'y a pas de contradicteur. Il vient et lui, c'est le patron. Il explique. Dans un des livres les plus dangereux qu'il soit, et qui vient d'être publié, qui est en tête de tout. Je veux dire, les implicites de ce texte-là sont extrêmement... Mais on aimerait débattre avec lui. Il n'y a pas de débat avec lui. Lui, il expose. Quand toi tu viens avec ta situation, donc tu viens pas exposer, tu viens te défendre. Vous avez vu tous les débats qu'il y a eu récemment ? On a systématiquement mis les musulmans ou les musulmans en position défensive. Et vous, attendez. Non, nous, ça y est, on est gentils. Je suis désolé, c'est ce qu'on a vu. Sur la défensive, pourquoi ? Parce qu'on décide du cadre dans lequel on va vous pousser à vous. Alors à partir d'un certain moment, à la limite, quand les médias ont besoin de vous pour vous défendre, vous dites, nous on n'a pas besoin de vous pour être entendus. Salut. On n'y va pas. On n'a pas à aller se défendre, surtout quand c'est alimenté. D'où vient cette affaire ? À un moment donné, il faut leur dire non. Vous m'invitez dans ces conditions-là où je ne viens pas. Parce que j'ai des choses à dire, je n'ai pas simplement des choses à défendre. Vous êtes en train de nous mettre dans une position de défense absolue. Ou alors, vous avez ceux qui, eux, ils ne se défendent pas, ils se vendent. Ils ont tout soldé. Tout ! Et toi, tu vois à la télévision, quand tu les vois parler, tu te dis, mais qu'est-ce qui reste de nous dans tout ça ? Ils ont soldé. Donc à partir d'un certain moment, Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça en amont? Parce qu'il faut avoir le cadre dans la tête, il faut se rendre compte de où sont les enjeux. Et il faut rentrer de façon déterminée dans le seul espace qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la loi et la revendication de son application. Ça, c'est pour le cadre général. En montrant simplement une chose, c'est que depuis 50 ans, que la nouvelle génération et la nouvelle présence des musulmans est ici dans ce pays, eh bien, on a prouvé qu'on était déjà intégré et qu'il faut arrêter maintenant de revenir systématiquement. Le fait que vous reveniez systématiquement sur la question de l'intégration montre moins que nous avons eu un problème à être présents que le fait que vous avez un problème à nous accepter. C'est plus votre problème que le nôtre, finalement. Nous, on est là et on va travailler. Et il faut se décaler de cette question permanente où on vous prend le petit élément qui fâche tout le monde et vous tombez dans la passion. Maintenant, il faut revenir au centre. Et il faut poser les vraies questions de ce pays. Alors, dans ce pays, alors il y a deux domaines sur lesquels il faut qu'on ait un vrai discours. Parce que ces problèmes-là vont drainer les vraies réponses. Les vraies réponses, les vraies politiques sociales. Parce que se poser la question aujourd'hui de savoir si on doit légiférer sur une nouvelle loi, non. La loi de 1905, elle nous va très bien. L'année prochaine, on la fête, on va la fêter avec tout le monde. On va vraiment la fêter, non? On va faire une vraie fête à 1905. À la loi. Mais à son application. On va même demander son application stricto sensu. Appliquée. On va faire la fête. Et on va rappeler à cet État qu'on ne peut pas avoir une loi 1905 pour un certain type de population et une loi 1905 revue et visitée pour les autres. Non, on ne va pas la revisiter de façon discriminatoire. Donc on va poser le cadre. Alors, premier domaine dans lequel on va travailler, premier élément, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on nous propose, sur le plan réel, quel est le problème aujourd'hui des populations qu'on appelle d'origine immigrée et qui, pour la majorité, par la force des choses, de l'histoire, sont des populations de tradition musulmane? Où est le problème? Le problème, c'est la loi de 1905? Le problème, c'est son application? Non, on l'a accepté. Et même, on accepte le Conseil. Où est le problème? Le problème aujourd'hui, contrairement à ce qu'on nous dit sur le communautarisme des banlieues et tout ceci, le vrai problème, c'est la politique sociale de cet État. C'est comment est gérée aujourd'hui la disposition des populations et l'acceptation d'espaces de non-droit. Ce n'est pas un problème de sécurité. Quand, par exemple, Sarkozy nous dit la nouvelle citoyenneté et que ce qu'il nous propose, c'est le sécuritaire dans les banlieues, il y a une erreur dans le remède. Le sécuritaire, ça ne fait pas le citoyen. Le sécuritaire, ça fait le contrôler. Ça fait le citoyen qui est plus contrôlé que les autres parce qu'il a un faciès. Il ne faut pas rigoler. Le plan Vigipirate, il ne s'adresse pas majoritairement aux blonds aux yeux bleus. C'est pas vrai. Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, il y a une politique sécuritaire qui a une cible majoritaire. Ce sont ces populations à problème d'abord. Alors, dire que ce sont des populations à problème, c'est vrai. Maintenant, quels vont être les remèdes? La politique sociale aujourd'hui, qui fait que quand vous êtes un Français d'origine immigrée, arabe de faciès, musulman de religion, vivant dans la banlieue, vous avez quatre défauts. C'est ce que l'on sait. Alors, à partir d'un certain moment, il faut questionner la politique sociale dans ce pays. La politique sociale dans ce pays, c'est qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour faire en sorte qu'on sorte du communautarisme économique qui fait qu'on parque des gens qui sont des gens des laissés pour compte dans la société et puis que les nantis blancs de souche soient dans des résidences qui fait que quand toi tu es un arabe d'origine, tu veux changer, on fasse une discrimination au logement. Il y a dans ce pays aujourd'hui une véritable politique de discrimination à l'emploi, de discrimination au logement et de discrimination claire aux faciès dans les revendications minimales que vous pouvez avoir en tant que citoyen. C'est ça la politique qu'il faut questionner dans ce pays. C'est-à-dire qu'il faut véritablement poser le problème des politiques sociales de proximité. Plutôt que de nous proposer des policiers derrière chaque citoyen ou finalement le sécuritaire va sécuriser ceux qui sont les principales victimes de la violence. Ce sont ceux qui vivent dans les banlieues eux-mêmes. C'est eux qui les premiers subissent ça. Donc avec ce qu'on doit faire dans ces lieux-là, c'est questionner les politiques. Les politiques qui sont de respect du droit des citoyens. Donc ça veut dire clairement les lieux de non-droit où il y a... Alors, qu'il y ait de la sécurité à faire, c'est évident, il faut de la sécurité. Mais à côté de ceci, il faut véritablement décloisonner ces lieux. Il faut faire sortir les gens de là. On ne peut pas dire aux gens, oui, on est contre le communautarisme, on a parqué tout le monde au nom d'un véritable communautarisme économique, on les a mis tous ensemble et on dit, nous, on est contre ça. Mais on ne peut pas vouloir autre chose avec la politique qu'on a d'abord décidée pour ces populations-là. Et ça, c'est des vraies questions. C'est-à-dire que plutôt que de poser la question est le foulard, est l'islam, l'islam, ça n'a rien à voir avec le problème. On est en train de tout mélanger. On regarde l'islam dans les banlieues, on mélange tout. C'est pas un problème d'islam. C'est un problème de politique sociale. C'est un problème de revendication de droits. C'est un problème de respect des citoyens. Aujourd'hui, il y a une citoyenneté pour des gens de seconde zone dans ce pays. Il y a une citoyenneté de seconde zone. Et cette citoyenneté de seconde zone, elle est liée à des politiques qui sont des politiques simplement le moins de perturbations possibles, avec le moins d'investissements possibles, et avec également des politiques éducatives où on a des écoles dans ce pays qui sont des écoles de troisième niveau par rapport à d'autres. On a vraiment une éducation à géométrie variable. Donc à partir d'un certain moment, la banlieue, ça n'est pas que des problèmes. Et puis il faut arrêter avec cette politique des grands frères. Je veux dire, certains étaient contents, c'est-à-dire qu'on est des grands frères, on va aider, mais attendez, c'est à l'État de faire ça, c'est pas aux grands frères. Depuis quand le grand frère, c'est celui qui pense les déficits de la politique de l'État? Depuis quand on va dire, bah, toi, tu es un grand frère, tu vas lui parler? Non, mais attendez, moi, je suis le grand frère, peut-être, mais vous, vous êtes la structure étatique. Il y a un droit dans ce pays, il y a une politique volontariste qu'il faut faire. Il faut refuser le partenariat volontariste et condescendant. Ça suffit avec ça. Ça suffit de jouer le jeu de... Vous allez voir, on va minimiser le potentiel de violence des banlieues. Pourquoi ? Pour justifier la totale négligence de l'État dans la question. Le vrai problème, il est là. On est en train, nous-mêmes, avec des associations qui font dans le bénévolat, il faut le faire, mais à partir d'un certain moment, il faut faire du bénévolat, il faut faire du volontariat, mais pas au prix et dans l'économie des responsabilités de l'État. Parce que faire en sorte que ça explose le moins possible pour que l'État puisse se dédouaner, ça ne va pas. Il y a une vraie politique sociale. Et ce n'est pas le sécuritaire qui va le changer. Et donc ici, de ce point de vue-là, on a un vrai travail à faire. Alors, encore une fois, ça ne viendra pas que des banlieues, mais ça viendra de vous, ça viendra de citoyens qui ont commencé à comprendre qu'il faut questionner la politique. Qu'est-ce qu'on propose en matière de lutte contre la discrimination à l'emploi ? Vous pouvez être bac plus 5 dans ce pays-là et vous ne trouverez pas de travail, soit pour votre faciès, soit pour votre nom. Je veux dire, on le sait, le nombre de personnes qui disent « Attention, quand il y a un nom d'arabe, tu ne prends pas. Quand il y a un noir, tu ne prends pas. Quand tu as une femme voilée, tu ne prends pas. On ne prend pas. » Alors, il y a certains hommes, il y a certaines femmes qui se battent pour leurs droits, mais ça doit être une conscience beaucoup plus large. Et plus vous êtes excité à parler du foulard, moins vous êtes organisé à défendre vos droits. Et à dire, non, ça ne se passera pas comme ça. Nous, il ne va pas falloir nous cantonner sur les petits, sur les questions qui sont à la marge du vrai problème. Bien sûr qu'on va se battre pour l'application du droit. Bien sûr qu'on va se battre parce que c'est notre droit, si on le veut ou si on ne le veut pas, de porter un foulard ou de porter une barbe. C'est notre droit, on se battra. Mais ce n'est pas ça notre problème seulement. Notre vrai problème, c'est que vous êtes en train de nous préoccuper, d'occuper notre attention à côté de vrais... À côté des vrais problèmes de cette société-là. Parce que c'est quand on aura aussi travaillé sur ces problèmes-là que la question du foulard, que la question de notre intégration réelle au débat de société, ben, elle sera dépassée. Alors, on attire sur le passionnel et on évite le constructif. Et nous, alors, on est des champions. Nous, on est vraiment, pour nous emmener sur les domaines de l'impulsif et de l'émotif, nous, on garde tout. La meilleure chose que vous auriez pu faire quand Sarkozy parlait, c'est ni quand il disait des choses bien, et quand il disait des choses bien, et quand il disait des choses qui n'étaient pas silence absolu dans la salle. Essayez d'imaginer. 40 minutes, il n'y en a pas un qui dit un mot. On écoute. Merci. On est des citoyens, on écoute. Comme des idiots. C'est quoi ça ? Il n'y a rien à dire, on écoute, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut, où il va. On est là dans un vrai... Je veux dire, vous ne pouvez pas être dans l'émotif quand il y a des gens, des milliers de gens qui dans ce pays sont en train de vivre l'injustice quotidienne au nom d'une discrimination. On lutte contre la discrimination de façon construite, pas de façon émotive. On construit contre la discrimination. Alors là, on a quelqu'un en face de nous, on part dans l'émotif, c'est pas comme ça qu'on réagit, on construit, on a une vraie politique antidiscriminatoire, de revendication des droits, et on tombe pas dans le passionnel où on nous attire. Donc premier élément, c'était véritablement cela. Alors qu'est-ce qu'il faut sur le plan social? Il faut déterminer des vrais espaces de confiance. Et ce qu'il faut demander au gouvernement français et à l'autorité locale, c'est de prendre langue avec les citoyens. Je veux dire, quand vous êtes citoyen de confession musulmane, ceux avec lesquels vous avez affaire dans ce pays, c'est les renseignements généraux. C'est ça la vérité. À partir d'un certain moment, il faut dire non. Depuis quand est-ce que nous, on est des êtres à surveiller? Vous avez alimenté la peur et maintenant, vous justifiez la surveillance. Ben sortez de ça, revendiquez-le. Revendiquez qu'aujourd'hui, vous voulez des espaces de confiance. Vous pouvez aller voir le maire. Comme il y a un jeune, une fois, il est allé vers le maire, et il va discuter. Le maire, il lui dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Il dit, votre place. Un jour, je serai élu. Mais oui, comme ça. On a des droits. On n'est pas là pour faire du... On n'est pas là pour... Je veux dire, il y en a, ils font une conférence, il y a le maire qui est venu, il y a des autorités, puis il les regarde, il dit, t'as vu, ça leur a plu. C'est quoi ça? Vous faites des conférences et vous êtes content. T'as vu, ça leur a plu. C'est quoi? Vous êtes en train de vous vendre? On fait du marketing? Ça te plaît pas, j'ai quelque chose à dire. C'est comme ça. Je vais même te dire une chose. Ça va pas te plaire. Ça va pas te plaire. Et ça va pas plaire! Nous sommes maintenant dans un véritable combat de revendication des droits. Je veux dire, que ce que vous allez demander pour les pauvres jeunes filles et les pauvres garçons qui vivent dans des situations, vous-même qui êtes discriminé à l'emploi, ça ne va pas plaire parce que vous revendiquez des droits. On n'avait pas compté avec vous. On n'avait pas compté avec cette population qui arrive, qui dit on est citoyen français, maintenant on veut nos droits. On n'avait pas compté. Donc c'est gênant. Vous êtes gênant parce que l'intégration, ça a marché. C'est ça le problème, c'est que ça a marché. Mais c'est une intégration maintenant qui prend conscience qu'elle est discriminée. Donc à partir d'un certain moment, il faut s'organiser. Un, des espaces de confiance, il faut aller voir les maires. Partout où vous êtes, ça marche pas. On y va une fois, deux fois, il y a des droits, discrimination à l'emploi. Vous voulez qu'on se batte sur les prud'hommes, on va aller jusqu'au prud'homme, on va aller au niveau du travail. C'est ça. Arrêtez de tomber dans le piège, de regarder le 20h en espérant qu'on va parler bien. Non, le vrai débat, il est là. Politique de confiance, démocratie de base. Participation de base, ça c'est la démocratie participative. Il faut que vous en soyez. Moi je vous invite tous là où vous êtes à développer véritablement une vraie présence citoyenne de base. Un, sur des revendications qui sont des revendications de droit, contre les discriminations au logement. Qu'est-ce que vous faites? Contre les discriminations. Donc ça c'est des politiques, c'est ça qu'il faut aujourd'hui. C'est une politique de confiance de base, locale. La deuxième des choses, c'est effectivement la revendication de la citoyenneté. Puis à un moment donné, il faut arrêter d'accepter. Je veux dire, il faut aller voir les responsables d'associations, il faut aller voir les imams, puis il faut leur dire, arrêtez d'inviter des candidats aux élections pour parler le vendredi ou de nous orienter pour le vote. C'est non. Il y a un communautarisme économique et il y a un communautarisme électoraliste. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, on vient et on nous achète uniquement sur l'exotisme de non-non. C'est non. Peut-être que celui qui s'appelle Ahmad ou celui qui s'appelle Safia, elle n'a aucune idée de la politique, ça ne m'intéresse pas. La seule personne qui m'intéresse, c'est la compétente, la personne qui essaye de faire son boulot. Il peut s'appeler Alain, elle peut s'appeler Hélène, je m'en fiche. Tu es honnête, tu veux appliquer le droit, je suis avec toi. Mais si tu participes de ma communauté pour nous vendre, nous acheter, et puis de jouer à l'exotique de service qui vient et à qui on dit, ben, toi va t'occuper des grands frères, c'est non. Et moi je suis désolé. Vous n'avez que ce que vous méritez. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont accepté ça. Vous avez accepté qu'on joue avec les noms arabes. Voilà. Ben quand vous montrez qu'on peut vous acheter, moi, un bon politicien, je vous achète. Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, le communautarisme électoraliste, les politiciens de ce pays sont en train de produire ce qu'ils disent vouloir combattre. C'est eux qui sont en train de produire ça. Je veux dire, dans le Parti Socialiste qui se réunit là ce week-end, l'idée, ça va être, comment est-ce qu'on va faire pour toucher ces masses laborieuses? Accessoirement des votes. Oui. C'est vous. On va parler de vous. Mais comment on doit pouvoir vous atteindre? En voulant appliquer le droit et la justice, c'est tout. Je vois que ça. Pas parce que vous vous appelez, pas parce que vous êtes d'origine ou je sais pas quoi. Vous devez être respecté pour cela. Donc là, c'est les vraies questions. C'est pas les questions dans lesquelles on est en train de nous mener maintenant. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une vraie conscience politique. Une vraie conscience, mais même pas politique, citoyenne de base. Soyez des gens de ce pays-là et engagez-vous à ce niveau-là. Confiance sur le plan local. Engagement citoyen en revendiquant vos droits. Et troisième des choses, fondamentalement, refuser le communautarisme électoraliste. Dans une année et demie, il va y avoir... Ou une année, non, c'est ça, il va y avoir des élections sur le plan local. Il va vraiment falloir que vous marquiez la différence. Pardon ? Régional ? Mais il y a aussi part communale, non ? Non, c'est après. Voilà. Donc, tout cela en mettant en évidence une chose, d'arrêter absolument dans notre discours le discours victimaire. Il faut partout, victimaire, c'est-à-dire de victimisation, il faut partout, là maintenant, vos élus, vos partenaires, ils voient que vous n'êtes absolument pas prêts à continuer ce discours. Ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. On s'en fiche. Ça plaît pas, je vous le dis, ça ne va pas plaire. On s'en moque. Là, maintenant, il faut structurer ça. Il faut absolument structurer ça. Qui nous... Je veux dire, moi, je suis désolé. Je vois trop de citoyens de confession musulmane. Et de citoyennes de confession musulmane, ils ont envie de ça. Vous savez, cette envie de plaire, cette envie d'être reconnu, c'est l'autre facette de la pensée victimaire. La pensée de la victimisation. On est victime, on a envie de... Non, il faut maintenant revendiquer et puis il faut se prendre en main. Il faut vraiment se prendre en main. Alors je vous le dis pour vous, tout ce que j'ai dit dans le tafsir, c'est exactement ça, se prendre en main, véritablement sortir et servir les hommes et montrer notre différence avec une revendication des droits. Donc c'est pas uniquement de la charité, hein. Ne comprenez pas le tafsir de tout à l'heure comme une invitation à être charitable. Non, c'est une invitation à être véritablement, fondamentalement ancré dans l'ordre du droit. Il y a un deuxième volet, et je terminerai avec ça, sur lequel il faut travailler d'urgence. On nous dit aujourd'hui... Il y a un vrai problème avec les musulmans, il y a un problème de leur intégration, et on nous parle d'éducation. Alors l'éducation, il y a un vrai problème. Oui. Le premier problème qu'on a à l'éducation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des écoles pour les blancs. La réalité, il faut le dire comme ça, il y a des écoles pour les blancs, puis il y a des écoles pour blancs et basanés, puis il y a des écoles surtout pour basanés. Aujourd'hui, il y a des écoles dans un certain nombre de lieux, vous allez retrouver 80% de gens qui viennent de là-bas. Le grand discours sur l'école, l'école intégratrice, pour tous, égalitaire, tes chances, oui, d'accord. C'est un beau discours, c'est une autre réalité. Alors à partir d'un certain moment, il faut se battre pour que cette école, elle ait une véritable politique égalitaire. Et pour ça, il faut une politique volontariste. Alors, on entend aujourd'hui ce que dit Ferry, et il dit trois choses. Il dit, un, il y a du communautarisme dans l'école, il y a du danger, et il a raison. Maintenant, il faut se poser la question de savoir comment on remédie à cela. Deuxième des choses, il y a effectivement aujourd'hui, au niveau des écoles, alors le communautarisme, il insiste beaucoup sur la question, dont il faudra dire un mot, entre la communauté musulmane et la communauté juive, où il y a des frictions possibles. Deuxième des choses, il y a aujourd'hui, dans, à partir des écoles, des vrais problèmes en ce qui concerne un certain nombre d'élèves sur leur type de rapport au programme. Et il a raison aussi. Et puis, dernier élément, il y a effectivement un problème avec le statut des enseignants, et il a raison aussi. Il y a des constats de problèmes, on ne peut pas les nier. Maintenant, ce qu'il faut qu'on se pose comme question, c'est quelles sont les solutions par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est les solutions, comme il a été dit, pour minimiser la nouvelle expression de l'antisémitisme ou de la judéophobie, enseigner davantage l'Holocauste. Comme si ça, c'était la réponse à une fois que j'aurai appris ce qui s'est passé pour les Juifs en 1940, tu vas voir que je serai sympa avec le copain juif. C'est le fait qu'il faille enseigner l'Holocauste. Ça ne fait aucun doute. Comment on l'intègre à une politique d'enseignement, c'est une autre chose. Et aujourd'hui, il faut vraiment qu'on se pose la question de savoir, cette école, est-ce qu'elle joue son rôle pour ces populations-là? Alors, première des choses, plutôt que de nous proposer ces types de remèdes, qui peuvent être, d'une certaine façon, on a identifié le problème, mais les remèdes, on ne les trouve pas vraiment. Il y a un vrai problème aujourd'hui dans les programmes d'éducation en histoire, par exemple. Aujourd'hui, quand vous êtes français, d'origine algérienne, d'origine marocaine, d'origine tunisienne, d'origine turque et de confession musulmane, vous êtes maintenant devenu français, vous êtes parti de ce pays-là. Qu'est-ce que l'école dit de vous ? Presque rien. Et par le presque rien, elle dit beaucoup. Elle dit justement que ce n'est pas intégré dans la conscience collective que vous êtes parti de ce pays. Qu'il y a une mémoire qui est très sélective, que ce soit la mémoire des Gaules, mais absolument pas la mémoire de toutes les populations, même de la population, de toutes les traditions d'Afrique du Nord. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est que l'éducation, les programmes d'éducation, intègrent véritablement les mémoires collectives de ces populations-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là où il faut se battre vraiment, c'est que les enseignants aient de quoi pouvoir enseigner, par exemple, la période coloniale. La France n'a pas du tout réglé son problème avec, par exemple, la colonisation algérienne. On en parle de façon totalement biaisée. Mais quand vous êtes un enfant et que quand on vous enseigne dans l'école dans laquelle vous êtes, rien sur votre histoire, ou qu'en plus elle n'est même pas valorisée, on ne va pas construire une identité. Il faut des programmes qui soient revisités, beaucoup plus inclusifs, sur trois domaines. Un, la colonisation. Deux, l'exil des parents. Les parents ont fait ce pays. Les parents ont construit la France après la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce qui est dit là-dessus ? Qu'est-ce qui est dit sur ces parents qui se sont arrachés de leurs racines en Afrique du Nord pour venir faire la France ? Presque rien. Presque rien. Mais si tu ne m'intègres pas dans mon histoire, c'est absolument impossible que je me sente véritablement impliqué dans ma citoyenneté. C'est pas possible. Donc, le deuxième élément, c'est ça. Et la troisième des choses, c'est qu'il faut dans ces programmes-là, et puis dans la réalité, aujourd'hui, de cette histoire, c'est de dire que la culture française, elle s'est diversifiée, que la culture française, aujourd'hui, c'est aussi la culture d'Afrique du Nord, c'est aussi les éléments de la... Ça, il faut le dire. La seule chose qu'on accepte en matière culturelle, on l'a déjà dit ici, c'est finalement l'apport des footballeurs, ou des basketteurs, ou des sportifs. Ça gêne personne, ça n'a posé aucun problème de dimension, de diversité culturelle, le fait que Zidane soit d'origine algérienne. Quand c'est dans le foot et que ça apporte quelque chose à la nation, on oublie tout. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut faire comprendre à la conscience française que la diversité des cultures apporte quelque chose à la richesse de ce pays. C'est un plus pour la France d'intégrer la mémoire d'Afrique du Nord, d'intégrer les cultures, d'intégrer cette histoire, d'intégrer cette... C'est un plus, il faut le faire comprendre. C'est votre boulot. C'est votre travail. Et donc, c'est ça le vrai problème de l'éducation. C'est pas du tout la question de savoir enseigner leur l'Holocauste. C'est pas ça. C'est valoriser l'idée que j'ai de moi. Valoriser l'idée que j'ai qu'on me donne de moi-même dans ce pays. Donc c'est ça qu'il faut demander. Alors, maintenant... Régis Debray propose une éducation des religions. C'est très important aussi, il faut intégrer ça, parce que connaître les religions, c'est aussi avoir une meilleure connaissance de soi et des autres. Donc il y a un certain nombre de remèdes qu'il faut apporter à l'éducation, qui sont vraiment problématiques, mais où êtes-vous ? Alors maintenant, vous, pour la plupart d'entre vous, vous êtes soit de grands adolescents, soit de jeunes parents, soit vous êtes des parents. Il faut investir l'espace éducatif, il faut en être, il faut être dans les écoles des parents, il faut être dans les associations de parents, il faut être proche de l'école, il faut être dans la proximité, il faut se faire entendre maintenant, il faut le dire. Qu'est-ce que vous dites sur notre histoire ? Qu'est-ce que vous dites sur notre mémoire ? Il faut être présent sur le plan local. Ça ne sert à rien de tomber dans le piège de l'agitation des débats nationaux. Ça ne change pas une société. Ce qui change une société, c'est votre implication locale sur le plan des politiques sociales, de la revendication des droits. Ça, c'est pour le domaine de l'intérieur. Et pour la politique éducative de ce pays-là, il faut vraiment en être. Et il faut venir au cœur des vrais problèmes. Le problème que nous avons, nous, là, maintenant, c'est qu'on se laisse piéger par des débats qui ne sont pas les nôtres, en fait. L'intégration, allez, c'est dépassé. C'est pour ceux qui ont encore envie de faire des problèmes. Nous, on est dedans. Maintenant, on va vous montrer. On va revendiquer nos droits. La laïcité, on a compris ce que c'était. On ne vous laissera pas dire ce qu'elle n'est pas. Appliquez la loi de 1905. Deuxième élément, les politiques sociales, les politiques de revendication, nos droits, contre la discrimination au logement, contre la discrimination à l'emploi, contre la discrimination même en matière de participation politique, d'arrêter de faire en sorte aussi que les élus soient les élus d'origine maghrébine soient systématiquement affiliés à la question des maghrébins, comme s'il n'y a rien d'autre qui les intéressait. Et qu'à partir d'un certain moment, sur la politique d'éducation, on pose des vraies questions. La France souffre de ses programmes éducatifs, pas simplement de son école, et de son école aussi en matière de politique d'organisation finalement, parce qu'on a, des écoles où on a 80% alors, de gens qui viennent de cela. Alors, juste un petit mot, parce qu'il faut que j'arrête, juste un petit mot sur une chose. Dans un article récent, j'ai mis en évidence, et je vous le dis et je m'en explique, parce que j'ai pu entendre, j'ai mis en évidence le fait, et d'ailleurs vous l'avez ici dans le bulletin, le fait que dans cette politique-là, qui nous ferait effectivement sortir de ce communautarisme, parce que nous ne voulons pas, il y a une chose qui vous est interdite à nous fondamentalement, c'est de nous enfermer, nous, notre communauté, loin. Non, on n'est pas du tout dans cette logique-là. On a une communauté de fond, mais on s'ouvre. Eh bien, la pire des choses qui pourrait être dans la logique dans laquelle nous emmène aujourd'hui, par exemple, SOS Racisme, c'est de dire, ben non, on ne veut pas que vous manifestiez votre religion à l'école, donc on lit d'une certaine façon la loi, c'est une erreur par rapport à la loi française, la lecture des SOS Racisme, dont on a appris que finalement, les créateurs, alors on sait qui est derrière SOS Racisme, on n'est pas des naïfs, on a compris, l'histoire parle d'elle-même. Mais maintenant on nous dit ça, et on nous dit de ce point de vue-là, on ne veut pas de manifestation, alors faites vos écoles. On nous invite à faire nos écoles. Moi je vais vous dire une chose, la pire des choses qui puissent arriver pour la communauté musulmane en France, c'est de tomber dans ce piège-là. Alors comprenez-moi bien, moi je ne suis pas contre le principe d'une école islamique, mais j'en ai visité tellement, et j'ai vu avec quelle mentalité beaucoup de musulmans la font. C'est, on prend les musulmans, on les enlève de la société, on leur fait une espèce d'atmosphère artificielle, et on pense l'éducation contre la société. Ça marche pas. Même Youssouf Islam, Cat Stevens, après 20 ans, il s'est rendu compte que l'école islamique pensée comme ça, ça ne marchait pas, parce que c'est artificiel par rapport à l'environnement. Tu es dans une atmosphère islamique, puis tu sors, tu es complètement démuni. Alors que le but, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est un enjeu difficile, mais plutôt que de faire une école parallèle, faisons une école complémentaire. C'est-à-dire, prenons de cette société ce qui marche. Alors, c'est le pire qui puisse être dans notre mentalité. Alors, on réunit les musulmans, et puis on les tire ensemble, et puis voilà, l'atmosphère, et puis ça vous donne des schizophrènes. Ils ne savent plus très bien avec qui ils vivent. Et je pense vraiment, de ce point de vue-là, qu'on doit alimenter beaucoup plus notre présence dans le système scolaire. Mais ça, c'est parce que nous, c'est la solution de facilité. Quand tu as un problème quelque part, tu n'as qu'à rêver que tu vas avoir une solution loin. Enfin, ça, on est des champions. Mais une jambe sur l'autre, on se dit, ça serait bien quand même une école islamique. Mais une école islamique, ce n'est pas une école de la différence, c'est une école de l'originalité. Mais on ne l'a pas, cette originalité. On n'a pas de gens qui réfléchissent suffisamment loin en matière pédagogique. Donc, il faut s'engager aujourd'hui dans le système. Et je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Et à mon sens, je m'y oppose, en termes de, pas en termes de principe, mais dans la philosophie, dans la psychologie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à cette idée d'une école parallèle. Je pense que nous avons à être très présents sur le plan social et à réinvestir les vraies questions. Alors moi, ce que je vous propose par rapport à cette question de la laïcité, c'est de connaître juste le cadre de la laïcité et de considérer qu'il y a un certain nombre de débats qui sont dépassés. Ne vous faites pas piéger par le retour et le retour et le retour de la position de la défense. Vous êtes là en train de vous défendre. Non. Nous, maintenant, ça suffit. La laïcité nous permet notre pratique. On a compris ça. Maintenant, nous, on a des questions à la société. Nous, on a des revendications. Sur le plan social, c'est ça. Sur le plan de l'éducation, c'est ça. Et on avance. Et on avance dans l'offensive. Parce que c'est quand on est discriminé qu'on doit être offensif. C'est quand même pas à nous de nous défendre d'être discriminé. Voilà ce qu'on fait, nous. On est discriminé et on se défend d'être mal compris dans notre discrimination. On vous a piégé deux fois. Discriminer dans les faits, sur la défensive, psychologiquement. C'est absolument impossible de continuer comme ça. Donc il faut sortir de cela, et puis il faut montrer que de ce point de vue, vous avez à revendiquer des choses. Et ça se termine, puisque Fouad arrive, ça se termine par un certain nombre aussi d'éléments du discours qui doivent être dites, qui doivent être dits, et dits avec force. Aujourd'hui, l'un des l'un des propos qui apparaissent, c'est la grande crainte de la division dans la société française. Et là, je dois dire que c'est vrai qu'il faut qu'on dise qu'il peut y avoir des problèmes. Là aussi, il faut que vous soyez clair. Vous savez, moi, j'ai un grand problème avec la communauté musulmane. J'ai un grand problème avec vous. Parce que des fois, je dis des choses ici, il y en a qui les entendent, et ils sortent, ils disent, ouais, ils disent ça, c'est pas pour nous, ils disent ça pour les gens. Mais ils pensent autre chose. Donc, permettez-moi de croire et de penser, de bien comprendre que ce que je vous dis là, c'est ce que je pense. Je n'ai pas un discours devant et un discours derrière. C'est ce que je pense. Et quand je dis, par exemple, de façon claire, qu'il est vrai aujourd'hui en France, alors il y a deux problèmes sur lesquels j'aimerais m'arrêter. Il y en a un, c'est que, par exemple, maintenant c'est la tarte à la crème. On revient systématiquement avec ça sur la question de l'antisémitisme. Vous savez très bien qu'il y a un certain nombre de jeunes, parfois peu éduqués islamiquement, et des jeunes qui sont des laissés pour compte de la société, qui sont en conflit avec la société, et qui, à un moment donné, voyant ce qui se passe en Palestine, prennent ceci et peuvent tenir des discours judéophobes et antisémites. Notre position, elle ne souffre absolument. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut avoir des principes. Le premier principe, la loi de 1905. Le deuxième principe, on est contre les discriminations. Le troisième principe, sur le plan des communautés, l'antisémitisme, c'est non. Et dans le même temps où je dis ceci, je vous l'ai répété 50 fois, ma critique envers l'État d'Israël ne souffre absolument aucun soupçon. Je ne confonds pas les Juifs et Sharon. Ça, mais d'une clarté limpide. Et il faut, vous allez être critiqué pour ça, mais il faut que ce soit clair. L'État d'Israël et sa politique me trouvera devant lui. Les Juifs à côté d'eux. Les Juifs pour défendre leur spiritualité, les sionistes qui acceptent sans maudire la politique de Sharon me trouveront devant eux. Je serai avec le Juif contre toute discrimination judéophobe, je serai contre Sharon et sa politique, contre toute politique terroriste. Et ça, ça doit être clair. Et à tous ceux qui, dans ce pays, commencent à mélanger les ordres, il faut que vous soyez d'une limpidité. Et ce n'est pas un double discours, c'est clair. Min ahl al-kitab, ils sont des gens du livre dans leur foi, mais devant n'importe quel injuste, je serai présent au nom de la cause palestinienne, au nom de la cause de la justice. Premier élément de principe, et ne dérogez pas à cela. Le deuxième élément, et c'est le dernier, à partir de la question de la judéophobie, l'autre élément qui est aussi important, on vous dit aujourd'hui que la situation des jeunes femmes dans les banlieues se détériore. Et vous ne pouvez pas ne pas reconnaître que c'est vrai. Ça se détériore. Il y a ce qu'on appelle les viols collectifs, les tournantes. Ne les appelez pas tournantes, ce sont des viols collectifs. Et il faut dire clairement. Alors, on peut être contre la méthode de ces femmes qui ont traversé la France. Mais par contre, elles posent des vrais problèmes. Qu'il y ait eu récupération politique, c'est évident, mais elle pose des vrais problèmes. Et il faut que nous disions clairement une chose. Quelqu'un qui connaît mal l'islam et qui connaît mal et qui vit mal sa culture arabe peut parfois en arriver à avoir des comportements machistes et à des comportements inacceptables à l'endroit des femmes, vous le savez très bien. Je le vis comme vous. Il y en a certains, t'as vu ma mère comment elle est respectueuse, toi t'es pas comme ma mère, t'es donc une prostituée. Des raccourcis chez des gens qui sont peu éduqués. Nous, il faut qu'on tienne un discours clair. Le respect de l'intégrité physique des femmes, musulmanes ou non, quel que soit leur choix de tenue vestimentaire ou non, ne souffre aucune dérogation. Il faut qu'on soit clair et qu'on dise clairement qu'on se battra pour la reconnaissance. Mais il faut qu'on dise de la même façon qu'il ne s'agit pas d'incriminer l'islam en tant que religion ou la culture arabe en tant que culture. C'est souvent chez les peu éduqués que cette attitude se produit. Donc, il faut, comme réponse à ces problèmes-là, dire qu'il faut des programmes d'éducation et non pas des politiques de stigmatisation. Aujourd'hui, on n'a pas l'éducation et on stigmatise. On dit c'est parce qu'ils sont arabo-musulmans. La marche de ces femmes n'a pas commencé sur l'islam, elle s'est terminée sur l'islam parce qu'entre-temps, il y a eu récupération politique. À vous de dire non à la récupération politique. Donc, s'il vous plaît, vous êtes venu ici. Ne vous laissez pas piéger par un débat qui est un débat monté de toutes pièces. Prenez l'initiative des termes du débat en politique sociale, en politique éducative. Devenez des citoyens et montrez par votre engagement local que c'est acquis. qu'on ne vous mènera pas en bateau et que la laïcité, vous la connaissez. Ne laissez pas des laïcs dire de la laïcité ce que la laïcité n'a jamais été. Elle n'est ni contre la religion, ni contre l'islam. Et soyez des musulmans convaincus, des laïcs avertis et des citoyens engagés. Inch'Allah. Salam alaikum.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah.